Bon, merci Soumier. Et nous n'allons pas quitter Chicago puisque Julien Faury va nous en parler. Julien Faury, donc de l'EPHE, qui, comme Chicago, couvre à la fois la culture chinoise et japonaise, donc qui va nous parler de ces deux volets de la culture de l'école.
Merci pour cette présentation très flatteuse. Je voulais d'abord remercier M. Jean-Noël Robert pour m'avoir invité à ce colloque en hommage à Bernard Franck. C'est à la fois un honneur et un infini plaisir de pouvoir intervenir ainsi parmi les plus grands spécialistes des domaines dans lesquels nous avons tous une dette immense envers le chercheur que nous célébrons à travers ces deux journées de colloque. L'intervention de Mme Telada a prolongé les réflexions de Bernard Franck sur Minamoto no Shitago, ce poète qu'il présentait lui-même, comme le rappelait très justement Mme Pigeot, comme un lettré malheureux et même très profondément malheureux, disait-il, dont l'activité d'homme de lettres, toujours selon Bernard Franck, apparaît comme l'une des plus riches, les plus créatives, non seulement de son époque, mais aussi de toute l'histoire du Japon. Pour ma part, je vous propose de revenir sur celui qui fut son maître en poésie, le maître de Shitago, donc, Tachibana no Aritsura. Si son nom est beaucoup moins connu que celui de son illustre disciple, c'est notamment du fait qu'il ne nous reste relativement que peu de poèmes, quasiment aucune indication biographique dans les documents officiels, et sans doute aussi à cause d'une carrière sans éclat et bien trop discrète. Le plus grand nombre de poèmes signés par Aritsura se trouve dans le Soshu, nous y reviendrons. Quelques pièces en vers ou en prose figurent également dans le Honchō Monzui, le Chōya Gunsai ou d'autres anthologies de prose et de poésie chinoise. Les extraits choisis dans les deux grandes anthologies sino-japonaises de l'époque, le Wakan Loeshu et le Shinsen Loeshu, respectivement 6 et 9 pièces, attestent également de sa renommée et de la reconnaissance de son talent par ses pairs. Si Masafusa dans le Godansho considère le disciple de Shitago plus doué que son maître, volume 5, anecdote 47, Hayashi Lazan rappelle dans sa biographie de Shitago que ce dernier aimait réciter au quotidien les poèmes d'Aritsura et que l'admiration qu'il vouait au talent de son maître le motiva à compiler ses œuvres en 7 volumes. Le recueil, achevé le troisième mois de l'an 954, ne nous est pas parvenu, mais le Honchō Monzui en a conservé la préface, sous le titre, on y reviendra aussi, Préface au recueil de Monseigneur le moine Sonkyo, Shamon Kyokoshu Nojo. La postérité d'Aritsura tient donc avant tout dans l'admiration qu'il suscita chez ceux qui le côtoyèrent, dans le monde de plus en plus refermé sur lui-même des poètes de cour. En effet, tandis que les plus hautes fonctions étaient déjà monopolisées par les Fujiwara à la cour et que les familles Oe et Sugawara régnaient sur l'office des études supérieures, des hautes études, il ne restait que peu de place pour les anciennes familles de lettrés, telles que les Ki ou les Tachibana, dont le prestige, acquis tout au long de l'époque de Nara et dans la première moitié de celle de Heian, s'était déjà bien estompé depuis les générations précédentes. Si tous les lettrés subissaient les conséquences du tragique exil de Sugawara no Michizane, dont la mort en 903 sonna le glas de leurs ambitions, ces petites familles, qui n'étaient pas parvenues à consolider leur position à la cour par des alliances, comme les Fujiwara, ou à travers leur fonction de conseiller pour l'empereur, comme les Oe ou les Sugawara, étaient condamnées à se retrouver à l'écart des luttes pour le pouvoir et voyaient leurs membres cantonnés à des fonctions modestes. Ce fut le cas du père d'Aritsura, Tachibana no Namiki, dont on savait peu de choses également, si ce n'est qu'il fut gouverneur des provinces d'Owari et d'Awa et gouverneur sommaire de la province du Yamato. Son arrière-grand-père, Minetsugu, était lui parvenu au rang de second conseiller, Tsunagon, et son arrière-arrière-grand-père, je m'arrêtais là, Ujikimi, à celui de ministre de droite. La supposée filiation avec l'empereur Bidatsu, fin 6e siècle, dont il serait le descendant à la 9e génération, ne sonnait plus que comme le lointain écho d'une gloire déjà révolue. Les laborieux débuts d'Aritsura, dans le monde des lettrés, sont racontés par l'intéressé dans un poème autobiographique, que je cite ici en partie, intitulé « Mes sentiments une nuit d'automne », Shuya no Kankai. Donc, il y écrit, il y décrit donc le fait qu'il est élève au pavillon du Nord, donc il est devenu élève de la voie des lettres, et surtout, déjà plus de 30 ans que mes lectures n'ont toujours pas porté leurs fruits. Les mains vides, je rentre chez moi à pas compter. Une fois rentré, je me repose dans mon ermitage. Ma famille est bien pauvre et rares sont ceux que je peux qualifier de proches. Ma condition est basse et mes anciens amis souvent perdus de vue. Seul me reste la lune de Chang'an, Kyoto bien sûr, rien, qui, nuit après nuit, me rend visite dans mon paisible séjour. Dans la deuxième partie de ce poème, décrivant la solitude de son auteur, une froide nuit d'automne, Aritsura revient sur sa situation au moment de composer ses vers. Il avoue lui-même que, malgré tous ses efforts, il n'a pu intégrer le cursus de la voie des lettres, Monjodo, qu'à l'âge tardif de 30 ans passés. Bien qu'il n'en précise pas les raisons, on peut imaginer que son origine modeste et l'absence de soutien politique n'ont pas favorisé son accession au rang d'étudiant de la Voie des Lettres, Monjo Sho, constituant normalement le point de départ d'un apprentissage devant déboucher sur l'obtention du titre de lauréat, Shusai. Le poète insiste sur sa solitude dans cette période de sa vie où il ne pouvait compter sur aucun appui familial et n'avait pas, non plus, d'amis suffisamment proches avec qui il aurait pu partager ses doutes et ses plaintes. La dénomination de son domicile par le terme Ioli, une cabane à l'ermitage, je l'ai laissé en rouge ici, auquel répond celui de Kankyo, la retraite, dans le dernier vers, n'est pas sans rappeler l'idéal de retraite au sein du monde, tel que Tao Yanming la décrivait dans le fameux poème de la série En buvant du vin, M. Robert revenait récemment, donc je ne vais pas revenir dessus, ou tel que plus tard, Pai Chiyi va repréciser en distinguant plusieurs degrés de distance prise, la forme ultime étant la retraite pratiquée au beau milieu de la cour, j'ai mis les termes ici en lecture japonaise, un Chōin ou Taiing, la grande retraite, bien plus difficile à mettre en pratique que si l'on s'isole dans une cabane à l'écart de la ville, Chōin, c'est la petite retraite. Pour en savoir plus sur la suite de son parcours, il faut nous tourner vers la biographie écrite par son disciple, donc Minamoto no Shitago, qui figurait originellement en guise de préface au recueil de poèmes et textes en prose d'Alitsula. Shitago, après avoir rappelé le nom religieux d'Alitsula, Sonkyo, et l'identité de son père, aborde immédiatement cette même période de sa vie, donc, sa première citation, « Quand il fréquenta l'office des études supérieures dans sa jeunesse, Monseigneur s'illustra par la finesse de son esprit qui le plaçait au-dessus des autres. Il était naturellement pourvu d'un style poétique comparable à Sema Xianzhu et des talents infinis de Yang Xiong. » Donc, répondant aux exigences de l'exercice, Shitago ne manque pas de souligner l'immensité du talent d'Alitsula, qui compare donc, aux lettrés de cour Sema Xianzhu, Shiba Shoujo en japonais, pour son style littéraire, et à Yang Xiong, Yo Yu, pour le talent, l'érudition en fait. Le paragraphe suivant détaille la rencontre et le début des liens d'amitié profonds tissés avec Minamoto no Fusaakira, nous y reviendrons juste après. Puis Shitago revient sur la suite de cette période d'études dans la Voie des Lettres. C'est la deuxième citation. Ah, depuis les temps anciens, combien de grands talents n'ont-ils pas trouvé la reconnaissance qu'ils méritaient? À l'âge de 30 ans, Monseigneur compta parmi les hommes de lettres. Les gens de ce monde se lamentèrent de ce qu'un grand homme comme lui parvienne à ce stade si tard. Monseigneur lui-même se lassa et abandonna ses études pour prendre fonction à la cour. Réprouvant les honneurs de ce monde, il tourna son cœur à la voie bouddhique et chercha à pénétrer le sens profond des innombrables sutras et traités. Le dixième mois de l'ancêtre de l'ère Tengyo, il s'extirpa finalement du filet des liens mondains et entra en religion au mont Hiei. S'il put se délivrer des cinq enivrements, des cinq attachements, et terrasser les quatre démons, le seul sur lequel il ne parvint jamais à prendre le dessus fut le démon de la poésie. Sans doute découragé lorsqu'il réalisa qu'il ne pourrait, même au terme de ce cursus, accéder à de hautes fonctions, Alitsula aurait choisi d'abandonner ses études pour devenir gouverneur adjoint de la province d'Aki, Akinosuke, avant d'être nommé au poste d'adjoint secondaire du Sansora, Danjo no Shohitsu, qui ne dépassa jamais, c'est le cinquième rang inférieur mineur, donc il ne dépassa jamais ce rang symbolique. Mais cette modeste carrière lui apporta, semble-t-il, de nouvelles déconvenues, si bien qu'il se résolut finalement, le dixième mois de l'an 944, à entrer dans les ordres au temple Enryakuji du mont Hiei. On notera que le terme fugu, que j'ai mis en rouge ici, littéralement le fait de ne pas trouver de correspondance, utilisé au début du passage, constitue un lieu commun de toute une littérature de complaintes, en Chine et au Japon, tournant autour de cette idée du lettré qui n'a pas trouvé son temps, concrètement, qui n'a pas rencontré de souverain capable de reconnaître son talent et de le prendre à son service. Alitsula s'inscrit donc dans cette longue lignée de poètes et autres lettrés de cour qui, depuis Chuyang ou Sema Tian en Chine, se sont tous retrouvés dans la même infortune d'un irrémédiable décalage avec leur époque, ne laissant souvent d'autre choix que de se retirer de la vie publique pour se consacrer à la réflexion et à l'écriture. L'épisode central dans cette biographie reste la rencontre d'Alitsula avec Minamoto no Fusaakira. Donc Minamoto no Fusaakira était le fils du prince Tokio, petit-fils de l'empereur Uda. Sa mère était une fille de Sugawara no Michizane. Alors qu'il semblait promis à une grande carrière, cette dernière subit un véritable coup d'arrêt après la mort de son grand-père et protecteur à la cour, l'empereur Uda, en 931. Il ne dépassa pas finalement le quatrième échelon inférieur majeur, son poste le plus élevé étant général en second de la garde du corps, section de gauche, Sakon-e no Chujo, c'est le terme par lequel il va être désigné dans sa correspondance avec Alitsula. La rencontre des deux poètes est décrite ainsi donc, dans la préface, la biographie écrite par Shitago. Je cite, « Le général en second de la garde du corps, Fusaakira, fort de sa filiation par alliance avec le ministre Mitizane, avait en charge un poste militaire et, dans son fort intérieur, goûtait les belles lettres. Quand il eut vent de la, réputation de Monseigneur, il décida de tester ses talents d'écriture. Il organisa une rencontre durant laquelle il lui demanda de composer des poèmes au fil des coupes de saké. Le pinceau d'Ali Tsula virevolta sur le papier et en quelques instants, de sublimes vers virent le jour. Trois coupes avaient à peine été échangées que, déjà, il avait composé 10 poèmes. On eût cru voir Tao Tien dans sa virtuosité poétique, on eût dit Vimalakirti réincarné tant il maîtrisait les textes bouddhiques. C'est en ces termes qu'il loua son talent. Ainsi se poursuivit leur conversation au gré des coupes vidées. Le général en second se tourna alors vers l'assemblée et déclara « Monseigneur Tachibana est un véritable génie ». À partir de ce jour, il le convia à chacune de ses réunions poétiques, sous les fleurs printanières ou devant la lune automnale, et ne manqua jamais de s'émerveiller devant ses poèmes. L'épisode ici relaté ne constitue pas un simple faire-valoir pour le poète Ali Tsula. Il est ici question d'une des plus belles histoires d'amitié dans l'histoire de la littérature japonaise. En effet, la rencontre entre Tachibana no Ali Tsula et Minamoto no Fusakira, immortalisée par la sélection des 22 poèmes composés à cette occasion dans le Soshu, était hautement symbolique en ce qu'elle résumait dans ces deux personnalités et leur parcours croisé les vicissitudes de nombreux lettrés qui n'ont jamais trouvé le succès. Les 22 poèmes en question, échangés entre les deux lettrés, comprennent 10 compositions de Minamoto no Fusakira et 12 de Tachibana no Ali Tsula. La particularité formelle de ces poèmes tient en fait qu'ils sont tous composés en respectant les mêmes rimes que le poème initial. Ce type de composition, consistant à répondre à un poème, washi, en utilisant des caractères de même rime, waing, constitue un jeu littéraire relativement récent dans l'histoire de la poésie chinoise, qui se serait développé essentiellement à la fin de l'époque des Tang pour s'épanouir pleinement sous les Song. Il s'agit du même procédé à l'œuvre dans le récitatif du Kawara no In, Kawara no In no Fu, de Minamoto no Shitago, traduit et commenté par Bernard Franck, qui analyse en détail la structure complexe à travers les rimes prises en référence, formant un acrostiche. Ici, le type d'accord rimique choisi est le plus contraignant du point de vue technique. Il s'agit de suivre les rimes, littéralement « jiin », c'est-à-dire reprendre exactement les mêmes caractères à la fin de chaque vers que l'original, qui plus est dans le même ordre. Les poèmes sont tous des lutins heptamétriques, des shigon d'ishi, et les rimes figurent à la fin des premiers, deuxième, quatrième, sixième et huitième vers, la concordance phonétique se retrouvant dans la terminaison de la lecture sino-japonaise des caractères que j'ai donnés. On voit ici « kun, gun, bun, un et bun ». Chaque poème est précédé d'une note liminaire explicative, un kotobagaki, indiquant généralement de manière laconique juste réponse, mata, mata fusu, ou précisant parfois sur quel caractère porte la rime principale. Mais les premiers échanges donnent lieu à davantage de précision de la part des deux protagonistes, qui détaillent leurs pensées, ce qu'ils ont ressenti à la lecture du poème qui leur a été adressé, et dans quel état d'esprit ils ont composé leurs réponses. La note liminaire la plus longue, faisant office de préface à cette série de 22 poèmes, est signé par Fusakira. Il y explique les circonstances de sa rencontre avec Ali Tsula. C'est la première citation à l'écran. J'ai eu récemment l'occasion de rencontrer le lettré de talent Tachibana no Ali Tsula dans un temple de montagne. Nous en vîmes à échanger quelques conversations pures où nous discutâmes de littérature et débattâmes des enseignements du Bouddha. Ali Tsula étant versé dans les deux voies, il naît du sujet qu'il ne maîtrise. Profondément ému par cette rencontre, je décidai de rentrer ensemble dans la même voiture. Si je me réjouis des dispositions que le ciel lui avait accordées, je me lamentais de ce qu'il n'avait toujours pas obtenu, le rang auquel il pouvait prétendre. Voilà pourquoi je choisis de composer un long poème pour m'y exprimer. La description de ce moment, de la rencontre par Fusakira, place cette première entrevue sous le signe destin, qui a ainsi réuni deux grands talents de son temps. Le terme de conversation pure, Seida, que j'ai laissé en rouge, renvoie bien entendu aux sept sages de la forêt de bambou, dans leurs érudites et libres discussions autour de quelques vers. Contrairement à la préface au recueil du moine Sonkyo, Minamoto no Fusakira n'est pas ici présenté comme le commanditaire de la série poétique, et ce n'est pas non plus à son initiative que les deux hommes se sont rencontrés. Le noble Fusakira, amateur de belles lettres mais peu porté sur les manœuvres politiques qui auraient pu lui ouvrir les portes des hautes fonctions à la cour, trouva en la personne d'Ali Tsula un compagnon d'infortune avec lequel il allait pouvoir partager les plaisirs lettrés que seuls les poètes comme lui peuvent apprécier à leur juste valeur. Cette préface reprend les principaux éléments du premier poème adressé par le noble à cet érudit lettré, rencontré ainsi fortuitement dans un temple de montagne. Il explique à quel point il a admiré à la fois les talents, mais également les vertus incarnées par son interlocuteur, et combien les quelques mots échangés avec lui l'ont transporté dans une dimension supérieure, comparable à celle dans laquelle évoluaient les fameux sept sages de la forêt de bambou. Qui plus est, à la virtuosité de sa plume s'associe une connaissance des écritures bouddhiques hors du commun. Pourtant, Malgré toutes ces dispositions et l'ardeur manifestée par Aletsula dans la lecture, qui resta sa principale occupation, Sakila regrette de constater qu'il ne connut pas la carrière qu'il aurait méritée. Je vous ai cité le premier poème, je passe un petit peu les premiers vers. Le deuxième distique, vous voyez, hein, reprend ce qu'il dit, ce qui est dit dans la préface de Stago, hein, où effectivement Sakila compare Aletsula à Tao Tien dans sa virtuosité poétique et Vimalakirti dans sa maîtrise des textes bouddhiques. Et si on prend donc le passage souligné, donc il parle donc d'Aletsula, il est comme le pas vertueux exposé au frima toujours droit dans la neige, ou la grue solitaire au noble sentiment s'élevant par-delà les nuées. L'étudiant d'autrefois a maintenant encore un livre sous le bras. On dit depuis toujours que les plus grands talents se révèlent sur le tard. Ces commentaires explicatifs permettent aux auteurs de préciser à chaque fois leur intention en expliquant sur quel point ils ont, par exemple, souhaité répondre dans leur composition, complétant ainsi l'expression parfois trop allusive de la poésie. De même, ces Kotobadagaki inscrivent également cet échange dans le temps, contrairement à la biographie de Stago qui situe la composition de 22 poèmes dans un unique banquet, avec la gageure d'une écriture miraculeusement rapide en moins de 3 échanges de coupes de saké. Ça dépend peut-être de la vitesse à laquelle ils boivent. Ainsi, par exemple, dans le commentaire liminaire introduisant la composition finale de la série, je n'incite pas ici, Aletsula parle-t-il d'un poème reçu la veille, Sakujitsu, auquel il a répondu immédiatement et pour lequel un autre poème lui est parvenu le lendemain matin à l'aube, Futsugyo. Donc on a un étalement dans le temps qu'on n'avait pas dans la version de Stago. À la subjectivité pragmatique, si je puis dire, de Stago, disciple remplissant parfaitement son rôle par une biographie laudative célébrant les exploits de celui dont il a choisi de rassembler les œuvres, s'oppose ici une subjectivité émotive de l'écrivain qui, à travers ses commentaires, précise ce qu'il a touché dans la composition de son interlocuteur et sur quel point il souhaite lui répondre. Chacun livre, dans cet échange poétique, ce qu'il a sur le cœur, pour reprendre le terme de Jukkai, qui me tient à cœur justement, et qui conviendrait parfaitement comme titre de chacune des 22 pièces, dont les auteurs répètent inlassablement qu'elles sont le reflet de leurs sentiments les plus profonds. Ils utilisent par exemple le terme de Hikai, mes modestes sentiments, littéralement, au premier et troisième poème d'Aletsula, Shokai, au dernier poème d'Aletsula, etc., etc. J'ai mis les mots-clés à la fin de dernière ligne. Ils insistent ainsi sur l'émotion ressentie de la lecture du poème qui leur a été adressé, tout en louant la beauté des vers, comme dans le commentaire introductif au troisième et quatrième poème d'Aletsula. Donc en haut, vous avez le Kotobagaki et en bas, le poème. Donc, je lis ce qu'il y a en haut. Le général en second, Minamoto, Nofusakila, m'a fait parvenir à plusieurs reprises ses sublimes compositions. D'une infinie subtilité et d'une singularité précieuse, elles n'ont d'égal en ce monde. Passant outre mon impéritie, je lui adressai une maladroite réponse. Mes émotions, cependant, n'étant point épuisées, je ressentis le besoin d'écrire de nouveaux vers pour livrer mes sentiments. Les vertueuses paroles, je les avais à la bouche, et les phrases ornées illuminaient mes yeux. Ne pouvant retenir autant d'exaltation, je repris mon pinceau pour aligner maladroitement quelques mots. Les derniers vers du poème en question illustrent parfaitement ce point. Je reprends le passage souligné uniquement. Les mots de Cheng Kongzhang ont simplement guéri une maladie. La prose de Sima Xianzhu a juste transporté son lecteur par-delà les nuages. Qui aurait soupçonné que les poèmes du général en second sont merveilleux au point d'émouvoir les démons, toucher les dieux et faire prêter l'oreille jusqu'aux bêtes sauvages? L'avant-dernier distique minimise les exploits pourtant déjà miraculeux des poètes, des poèmes de Qin Ling en japonais, qui auraient ému Cao Cao au point de remettre sur pied ce dernier alors gravement malade. Ou là encore la prose de Sima Xianzhu, Shiba Shoujo, qui a transporté l'empereur Wu des Han au point que ce dernier se sentit comme flottant entre terre et ciel ou surpassant les nuages, pour reprendre son expression. Notons que ce distique, a été sélectionné par Fujiwara no Kinto dans le Wakan Loeshu, section littérature, Bunshi, numéro 476. Les vers de Fusa Akira seraient donc bien supérieurs à ces monuments de la littérature chinoise, au point d'émouvoir, comme on le voit ici, les démons et les animaux sauvages. Ce dialogue poétique, où chacun s'émeut à la lecture des vers de l'autre, ne se limite pas au seul poème échangé, et l'on voit notamment dans l'extrait suivant que le respect mutuel des deux poètes s'inspire de la lecture d'autres œuvres. Là, c'est le premier poème de réponse d'Aletsula. Je ne lis pas tout, mais juste le passage souligné. Ému en récitant les vers sur l'étang et la blanche province de Paiping, en pleurant, j'ai moucheté le texte écrit sur les vers bambou. Et ce que j'ai mis entre parenthèses, ce sont les walichu, les notes intercalaires, donc de l'auteur. Récemment, le général a composé un poème sur le pavillon de l'étang au Kawaranoin, dans lequel figurent les vers. Les vagues y dessinent le bleu du lac Qingzhou. Les berges de l'étang rappellent le blanc de Baiping. En entendant ces vers, je fus submergé par l'émotion et mes larmes ne cessèrent de couler. L'émotion d'Ali Tsuda à la lecture du poème de Saakila fut telle qu'il versa donc des larmes comparables à celles des épouses de l'empereur Shun qui, à la mort du saint souverain, pleurèrent tant qu'elles en mouchetèrent les bambous. C'est la légende donc d'origine de cette variété de bambous tachetés. On notera que Fujiwara no Mototoshi a également considéré ce distique comme remarquable, si bien qu'il a sélectionné dans la section O, Mizu, de son anthologie de poésie sino-japonaise Shinsen Loeshu, numéro 470. On remarquera la continuité littéraire autour de la fameuse ancienne demeure de Minamoto no Toru, le Kawara no In, cédée à l'empereur retiré Uda, donc Fusakila, pardon, et rappelons-le, le petit-fils, c'est donc un Uda Genji, et qui, comme l'a si bien montré Bernard Franck dans son étude sur le devenir des lieux après la disparition de son créateur, n'a cessé d'inspirer les poètes et a accueilli nombre de réunions poétiques où se retrouvaient des gens esprits de l'esprit du fou Dieu, pour reprendre l'expression de Bernard Franck. Le caractère fortuit et non provoqué de la rencontre est souligné au tout début du deuxième poème de Fusakila, qui exprime bien la complicité immédiate et le lien qui s'est tissé lors de cette première entrevue. Il dit donc « Je regrette de n'avoir, durant de longues années, pu te rencontrer. Au sommet de ce monde, c'est un jour par hasard que nous fûmes réunis. Se comprenant l'un l'autre comme de vieilles connaissances, nous échangeâmes nos coups pour la première fois. Cette rencontre amicale, qui ne connaît de fin, est avant tout basée sur la littérature. » Alors, je traduis ici par littérature hein, ce boom qui, dans les entretiens de Confucius, sont traduits par la culture, par Han Cheng, par exemple, dans sa traduction. J'ai traduit ici par littérature, car c'est bien à travers la poésie que la relation amicale se noue. Je ne m'attarde pas sur le terme de Qing, qui est essentiel aussi, littéralement connaître le son, hein, tiré de l'anecdote des printemps et automnes de Messire Lu, racontant comment Chong Tsuchi, un Choshki en japonais, pouvait deviner, lorsque Poya jouait de la sitar, quel type de paysage il avait en tête. Donc le terme désigne une amitié où chacun peut littéralement lire dans les pensées de l'autre, tant cette amitié est fusionnelle. Le terme est utilisé dans la poésie sino-japonaise de l'époque de Heian, avec la nuance d'une communauté de poètes s'opposant aux spécialistes de la politique, pour qui ce genre de divertissement n'est que perte de temps. J'ai donné ici un poème de Shimada no Tadaomi, qui évoquait en 866, donc bien avant, la controverse sur l'inutilité des poètes, Shijin Muyo Long. Donc je ne vais pas reprendre tout le poème, mais juste le passage souligné. Les confucianistes déclarent la poésie inutile. En note intercalaire, récemment, on entend souvent dire que les poètes sont inutiles. La loi royale de nouveau s'applique. Nul excès d'alcool n'est toléré. Et note intercalaire, un édit a interdit les rassemblements arrosés. En ce monde escarpé, nombreux sont les déchéances. Devant les fleurs, notre cœur assombri ne s'y attarde point. Donc ce poème, composé dans une réunion informelle, bravant l'édit, donc l'interdiction de réunion, souligne la nécessité de se retrouver entre membres du même groupe pour composer des poèmes. Si je fais ce parallèle avec la situation des poètes de cour écartés du jeu politique par les bureaucrates confucéens qui mettaient en doute leur utilité à travers une vision utilitariste de la production littéraire, c'est parce que les circonstances de ce commerce amical lettré entre Ali Tsuda et Fusakila me semblent comparables. En effet, si les compliments que l'un adresse à l'autre constituent le sujet principal des premiers poèmes de la série, le thème qui se détache très vite pour rapidement occuper le centre des échanges et celui de la stagnation dans la carrière et de l'injustice faite à ces talents hors du commun dans leur traitement à la cour. J'ai mis ici donc la quatrième poème d'Ali Tsuda, où, donc je passe pour gagner un petit peu de temps, il reprend l'expression du livre des mutations avec la métaphore du gouffre au fond duquel le sage s'est resté en attendant son heure, ou du Chuang-tzu, avec l'idée de connaître ses limites et savoir rester à sa place, si je puis dire, pour ne pas s'exposer au danger. Et Ali Tsuda montre qu'il ne supporte pas de voir son ami ainsi, pourtant de haute ascendance, comme on l'a vu, stagner dans la hiérarchie de cour. L'intéressé répond avec la deuxième citation, là je cite, « Le lettré de talent Tachibana dit de moi que je n'ai pas trouvé mon époque. » L'expression en rouge. « Cette expression revient souvent dans nos échanges, or ce n'est pas le cas et je souhaite lui expliquer pourquoi. » Cette notion de ne pas trouver son époque est directement liée à l'idée de nos non-rencontres, fugu, qu'on a vu tout à l'heure. Donc il s'agit de l'adéquation ou non entre un sage et son époque. S'il a la chance de se trouver en un temps où règne un empereur vertueux, ce dernier sait le reconnaître et le prend à son service. S'il naît à une époque sombre, quelles que soient ses qualités, il restera inemployé. Cependant, Fusakila, qui semble résigné ici, dit donc à son ami, « Nul ne saurait ignorer que le temps va et vient. Ces paroles, je souhaite les faire entendre à mon ami intime. » Et il reprend le terme « tchiki », donc il a le même sens que « ching » et la même origine. Cet ami qui vous comprend mieux que quiconque. Cette résignation apparente, et nié deux poèmes plus loin par le même Fusakila, je vous ai cité le poème, où effectivement il explique que les plus besogneux dans l'étude ne sont pas forcément ceux qui se hissent dans la hiérarchie, et il met donc, j'ai mis entre parenthèses la note intercalaire, ces derniers temps, les érudits stagnent, tandis que les ignorants sont promus. Voilà pourquoi j'écris cela. Les deux lettrés vont ainsi, poème après poème, alterner les apitoiements mutuels avec des invitations à s'échapper de la turpitude des affaires mondaines pour se consacrer à la recherche d'une quiétude à travers l'idéal d'un hermétisme d'inspiration taoïste ou par l'étude de la pratique des enseignements du Bouddha. Merci beaucoup. Pardon. Non, excusez-moi. Non. C'est moi qui ai... les deux lettrés, donc Sakila déclarait dans la préface hein, que son admiration pour Alice contenait autant à la virtuosité de sa poésie qu'à sa connaissance des écritures bouddhiques. Et donc, dans le poème que je cite ici, le 9e, il explique que leur rencontre est due à leurs liens karmiques qui les ont menés à se rencontrer. Et le passage souligné, effectivement, remet tout ça en perspective. Gloire et renommée sont comme l'écume qui se forme sur la vague. On se rappellera justement le Rojoki. Richesse et honneur ne sont qu'un coin de ciel bleu au milieu des nuages. Si l'on se rappelle la préface au recueil compilé par Shitago et ce qu'il dit d'Alitsula dans son entrée dans les ordres, on réalise alors toute l'importance de ce démon de la poésie, Shima, dont parlait Baichi, et qui n'a pas abandonné non plus le lettré entré en religion. C'est ainsi en croisant les divers discours biographiques et autobiographiques que l'on réalise à quel point le commerce amical, entretenu à travers ces échanges poétiques, constituait, pour les intéressés, un véritable oasis au milieu du tumulte de la cour, théâtre de toutes les ambitions et des complots dont furent victimes les lettrés, comme Alitsula, Saakila ou encore Shitago. Pour conclure, nous n'avons pas le temps, bien sûr, de voir tous les poèmes en détail. J'ai insisté sur les Kotobagaki parce que la seule étude, à ma connaissance, sur cet échange de Dosone Shosuke date de 63. Il prend quelques poèmes pour l'illustrer. Il souligne notamment de nombreux passages dont l'interprétation pose des difficultés, mais n'exploite pas les Kotobagaki, qu'il paraphrase pourtant dans le commentaire de l'auteur. Mais je pense que c'est un matériau qu'il faut absolument exploiter. Donc j'espère donc, faute d'avoir apporté des réponses définitives aux nombreuses questions que soulève cette série de 22 poèmes, avoir réussi à montrer la nécessité d'en fournir une étude détaillée, dans l'esprit justement des recherches toujours inspirantes de Bernard Franck sur Minamoto no Shitago ou le Kawara no In no Toru en tant que phénomène culturel et littéraire à l'époque de Heian. Je vous remercie de votre attention.
Merci beaucoup pour cette belle histoire d'amitié et de poésie. Peut-être pourriez-vous en faire profiter en quelques mots notre auditoire japonais.
Ah non. ご覧の通りだったと思うんですけれども、ちょっと簡単にまとめます。源の下郷の詩であった橘のアリツラの運命に焦点を当てて、その伝記をいくつかの観点から検討してみました。アリツラの簡単な紹介から言って、一生不遇の詩で終わって、その伝記的な資料としては、自伝的な詩、その本朝文図に収められている秋夜寛解という詩を先に挙げて、30歳にしてようやく文上書になったという嘆かわしい事実を本人もそれで嘆いていて、虚しく帰るときに、いよりとか環境に帰るという、そういったすでに隠遁への憧れが読み取れる自伝的な詩から紹介しました。そして、源下郷が本来詩の詩文を集める七巻からなった社門教皇集の序、今序しか残っていないんですけれども、それを取り上げて、そこで下郷が自分の詩が、そういった才能、素晴らしい才能の持ち主であるのにもかかわらず、出世できなかったことを嘆いて、そしてその出家のいきさつを語って、出家してもなお島に勝てなかったということで締めくくっています。そして同じ社門教皇集の序で語っているのは、やはり源の房明との出会いですけれども、そこでは房明が有津良の才能を試そうと支援に誘うんですけれども、そこでお酒を交わしながら三酌を交わしていくうちに、有津良がすでに十首を作詞して房明を感激させたということが語られています。そこからその発表の中心だったんですけれども、不創集に収められた22首の房明と有津良の贈答ですけれども、そこで読み取れるのは、まず一つはそのお互いの尊敬であり、そして二人とも不遇の死の代表であって、一人は まあ、尊貴な身分で一人は身分の低いものですけれども、二人とも出生身体に困ったということで、それをこう嘆き合って、22週にわたってそういうことを嘆いて、仏教への憧れや、隠遁生活、そういった道教的な理想への憧れを強調して、そして知因という言葉にも焦点を当てて、いかに二人が密接な関係にあったかということを、少し例を挙げながら語ってみました。ありがとうございました。ありがとうございます。